Les As de la CoPro, le métier de syndic.
Le métier de syndic, première question, je ne peux m'empêcher de me tourner vers Mathieu.
Pas moi.
Quel est le prix d'un cabinet de syndic? Voilà, quand on achète, quand on vend son cabinet, certains partent à la retraite, certains ne trouvent pas de repreneur, certains en ont marre. Il y a sur le marché, il y a un marché, comme tout, comme pour tout, du cabinet de syndic. Comment on l'évalue? C'est vrai qu'on peut se poser beaucoup de questions. Alors, Foncia et d'autres groupes sont assez actifs hein, sur le marché des rachats de cabinets, de la croissance externe, hein, qu'on distingue de la croissance organique. Comment on évalue un cabinet? Par rapport au chiffre d'affaires, au nombre d'immeubles?
Alors, le prix est généralement exprimé comme un multiple du chiffre d'affaires. Ça, c'est comme on exprime le prix d'un contrat de syndic en un prix au lot, traditionnellement. Pour le rachat d'un cabinet, c'est un multiple du chiffre d'affaires. Mais maintenant, la question, c'est comment est-ce qu'on va établir ce multiple-là? Quand on rachète un cabinet, en fait, on a la volonté d'en améliorer la performance économique à court ou moyen terme. Et pour ça, il faut qu'on arrive à maintenir la qualité de service, voire à l'améliorer, soit par la digitalisation, soit par des offres additionnelles, soit par des services additionnels. La question est comment est-ce qu'on va réussir à faire tout ça et dans quelle mesure, dans quelle durée. Donc, avant de fixer le prix, il va y avoir forcément un audit approfondi, réalisé par des équipes qui dépendent de la direction financière hein, et qui vont aller évaluer un certain nombre de points très concrets comme l'ancienneté du portefeuille, le taux de renouvellement du portefeuille.
La durée des mandats.
La durée des mandats, mais aussi la qualité de l'organisation, la qualité de la comptabilité, les process internes qui sont mis en œuvre. Et tout ça, en fait, va permettre d'identifier les difficultés qu'on aura à maintenir une qualité de service ou au contraire, la facilité qu'on aura, à la pérenniser et améliorer tout ça en apportant des services additionnels. C'est qu'à l'échéance de cet audit, qu'on va voir si on formule une proposition, parce que quelquefois, on n'en formule pas si on se rend compte que ça ne va pas être possible, et qu'on va définir un prix qui, après, sera traduit en multiple du chiffre d'affaires.
Alors,
mais il n'y a pas de marché, c'est ce que je veux dire. On a quelquefois l'impression qu'il y a un prix de marché, une espèce d'argus.
On entend quand même des choses pour renseigner nos auditeurs. Alexis, la valeur d'un cabinet qui ne ferait que de la copropriété, on est sur quoi, 1,5 du chiffre d'affaires?
Après, c'est toujours pareil, c'est la rencontre entre un vendeur et un acheteur. Donc finalement, le prix, c'est le prix qui sera topé dans la main. Alors effectivement, historiquement...
Qu'est-ce qu'on voit?
Historiquement, il y a des multiples. 1, alors à l'époque, on était plus sur un coefficient 1. Maintenant, on est plus sur du coefficient 1,5. Parfois, on peut monter beaucoup plus. Hein. Ça dépend de la qualité intrinsèque du cabinet.
Ça va dépendre de ce qu'on va constater.
De ce qu'on va constater quand on va l'auditer, en fait. Donc, il n'y a pas de formule magique. Après, il y a une façon comptable avec des multiples d'opérer. Encore une fois, hein, c'est la rencontre entre un vendeur et un acquéreur. Ça évolue très peu, il n'y a pas véritablement de marché. Après, on peut aller au-delà de l'audit, on peut déterminer la manière après dont on va racheter le cabinet.
Oui, les modalités de paiement, la dernière tranche.
Est-ce qu'on reprend le fonds de commerce? Est-ce qu'on ne fait que reprendre les titres? Donc tout ça avec des incidences et des conséquences juridiques un petit peu différentes.
Et donc, oui, parce qu'on peut racheter le cabinet ou on peut racheter le portefeuille.
On peut racheter uniquement le portefeuille, on peut racheter le cabinet... Et puis l'ensemble avec l'ensemble.
Est-ce que l'ancien dirigeant va?
L'ancien dirigeant continue ou est-ce qu'il s'arrête parce qu'il part en retraite par exemple? Donc tout ça fait que c'est du cas par cas en fait.
Bon, donc c'est la loi du marché. Bon, moi je retiens qu'on est en gros en ce moment hein, le cours du syndic.
Pas de cours du syndic, Gilles. Désolé, c'est un fantasme.
Ok, alors on va rester sur ces explications. Je vous remercie beaucoup. Et j'enchaîne tout de suite sur la deuxième question, les prêts collectifs. Alors on parlait des travaux d'économie d'énergie. Les politiques publiques poussent les copropriétés et les syndics à aller dans les travaux d'économie d'énergie. C'est des travaux d'envergure. On parle de centaines de milliers d'euros, parfois de millions d'euros. Et même si certaines copropriétés sont sous perfusion de subventions publiques, ça reste de la propriété privée. Et donc, cette propriété privée, cet entretien, ce patrimoine, se finance avec des fonds propres ou si on est sur des grosses cotes-parts, on parle parfois de cotes-parts de 20 000, 30 000 euros, 40 000 euros pour chaque copropriétaire, on part nécessairement sur des prêts collectifs. En tout cas, on propose des prêts collectifs. Sauf que on constate depuis un peu toujours qu'il y a pénurie en matière d'offres de prêts collectifs. Et la question que je pose à Mathieu ou Alexis ou qui veut prendre la parole, où sont les banques aujourd'hui ? On a l'impression qu'il n'y a qu'une seule banque et donc pas de concurrence. Et si on la trouve, c'est une vraie galère pour monter un dossier sur le plan administratif, Mathieu.
Oui, alors effectivement, les banques, on n'en trouve pas beaucoup qui acceptent de faire du prêt collectif. En fait, on en trouve aujourd'hui une seule, hein, qu'on peut remercier d'ailleurs, c'est la Caisse d'épargne Île-de-France, la valeureuse Caisse d'épargne Île-de-France. Je crois que le problème, c'est qu'aujourd'hui, les charges et les obligations qui pèsent sur les banques sont totalement écrasantes par rapport à l'intérêt qu'a pour eux un emprunt collectif ou un prêt collectif si on se place de leur côté. Aujourd'hui, en fait, les banques ont des obligations de conformité, de découverte du client, de collecte de pièces, de vérification qui les écrasent administrativement et qui finalement retirent tout intérêt à un prêt collectif. Je pense qu'on en est en partie responsable, hein, parce que, alors là, les syndics qui nous écoutent, les gestionnaires qui nous écoutent le savent bien, il y a deux types d'emprunts collectifs et je parle de l'emprunt collectif facultatif, c'est-à-dire à adhésion facultative par le copropriétaire. Il y a celle où le copropriétaire rembourse directement et on s'est tous, nous syndics, précipités vers cette solution parce que pour nous, ça semblait plus facile. Mais pour la banque, en fait, ça
revient à un prêt individuel.
Ça revient à un prêt individuel avec des quotes-parts extrêmement faibles. Alors qu'il y a une autre solution qui est emprunt collectif et remboursement par le syndicat des copropriétaires qui, tous les trimestres, donc, c'est le syndicat des copropriétaires, donc le syndic qui va procéder au remboursement et qui lui-même va appeler les quotes-parts à chacun des copropriétaires.
Avec une bonne assurance. Avec une bonne garantie, une bonne assurance.
Alors,
en cas d'impayé.
C'est un autre sujet. Mais du coup, si nous, on arrive à aller vers ça, j'allais dire, ça doit alléger considérablement les obligations de la banque, qui n'a plus qu'un seul interlocuteur, qui est le syndicat des copropriétaires. Il faudrait qu'on arrive d'ailleurs à complètement faire disparaître derrière le copropriétaire aux yeux de la banque. Hein, c'est-à-dire que la banque va aller vérifier la solvabilité du syndicat, l'état des comptes. Et puis après, c'est au syndic de se débrouiller pour rappeler les fonds. Et comme un appel de fonds traditionnel. Je vais rapidement, mais vous évoquez le problème de la garantie financière. Aujourd'hui, le cautionnement est obligatoire. On peut se poser la question, est-ce que vraiment c'est nécessaire qu'un emprunt collectif soit, entre guillemets, assuré par un cautionnement obligatoire qui renchérit les coûts ? Quelle est la différence entre faire un appel de fonds sur 10 ans, par exemple, pour rembourser trimestriellement une quote-part d'emprunt, et appeler immédiatement la quote-part de très gros travaux ? Est-ce qu'il y a plus de risques pour un syndicat copropriétaire à appeler en 10 ans des sommes faibles ou en une fois, deux fois, trois fois des sommes très importantes ? Et pourtant, quand on fait des appels de fonds travaux, il n'y a aucun système de cautionnement en place. Il y a une solidarité, il y a des moyens de recouvrement. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas appliquer à l'emprunt collectif ce même type, ces mêmes types de privilèges, ce même type de recouvrement, alors, pour simplifier les choses?
C'est très technique et c'est très intéressant. Alexis, au Crédit Agricole, on réfléchit à ces questions.
Bien sûr. La difficulté technique que pose Mathieu, elle est réelle, en fait. Ne serait-ce qu'au sein des différents emprunts collectifs qui existent, puisqu'il y a l'emprunt avance sur subvention, il y a l'emprunt, donc le groupe d'emprunteurs individuels, on a l'emprunt collectif classique, on a l'emprunt voté à l'unanimité qui n'existe qu'en théorie. Enfin, tout ça mériterait une simplification forte. C'est vrai que côté banque, il y a des vraies difficultés, ne serait-ce que techniques, pour mettre en place ce qu'on appelle ces chaînes de crédit. Parce qu'effectivement, côté banque, on doit répondre à un certain nombre de critères de contrôle et c'est extrêmement complexe à mettre en place. Compte tenu en plus du fait, alors c'est moins vrai maintenant, puisqu'on a eu un décret qui est passé inaperçu par rapport au taux d'usure. C'est vrai qu'économiquement, jusqu'à présent, les banques n'avaient pas forcément intérêt à y aller, puisque le coût économique n'était pas intéressant. Donc c'est extrêmement compliqué et il faudrait véritablement simplifier très fortement ce modèle.
Simplifier le modèle, simplifier la réglementation et puis peut-être une volonté aussi politique. Hein. On met la pression sur les copropriétés, il faudrait peut-être mettre aussi la pression sur les banques. En tout cas, c'est un vrai sujet sur la thématique des travaux d'économie d'énergie, de la transition écologique. Hein. L'argent, c'est le nerf de la guerre.
En tout cas, il y a un paradoxe. La loi nous impose aujourd'hui de proposer un emprunt collectif quand on fait voter des travaux et jamais l'offre n'a été aussi faible. Donc évidemment, c'est un peu compliqué pour nous, gestionnaires de copropriété.
Exactement. Je propose qu'on passe, si vous voulez bien, à la séquence numéro 4, la question du copropriétaire, la deuxième.
Les As de la CoPro sur Radio Immo.